divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Michel Blais, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, philosophe, historien des sciences. Vous avez été secrétaire général de l'Union rationaliste. Et si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'UR, c'est que vous venez de publier aux éditions du CNRS un livre où vous vous interrogez sur la course à l'innovation que l'économie libérale impose à l'avenir des hommes, avec sa conception utilitariste de la technique. Ce livre, vous l'avez intitulé « L'existence au risque de l'innovation ». Alors, j'aimerais qu'en guise d'introduction, vous explicitiez ce beau titre difficile.
Oui, alors je vais d'abord dire une chose pour que ce soit bien clair. Je ne suis pas contre l'innovation, mais je suis, disons, contre l'innovation dans la mesure où plutôt je m'interroge sur son rôle social et sur la manière dont elle gouverne nos existences. C'est-à-dire, que nous reste-t-il de liberté face à l'innovation que l'on produit incessamment ? C'est ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'innovation technique, et je trouve que cette innovation technique remplace dans bien des cas l'innovation sociale, c'est-à-dire le poids de nos existences et la manière dont on pourrait résoudre de nombreux problèmes les uns avec les autres du point de vue social sans passer par l'innovation technologique. Je pense que souvent, elle est une manière de remplacer un choix politique. On ne sait pas quoi faire, de toute façon on ne peut rien faire, donc on va faire de la technique. L'école, c'est un exemple parlant, on ne sait plus comment faire à l'école, alors on met des ordinateurs. Je ne crois pas que ça soit la réponse. La réponse, c'est de penser rationnellement une transformation dans l'ordre du social, peut-être avec des innovations, mais bien mesurer quelles innovations et des innovations pour quoi faire.
Très bien. Alors, vous avez clairement explicité ce qu'est pour vous l'innovation. Maintenant, peut-être qu'il serait bon d'insister sur l'existence.
Mais l'existence, c'est notre existence, mon existence. J'existe et en tant que tel, je ne suis pas réductible à un certain nombre de processus innovant, c'est-à-dire je ne suis pas réductible, je ne suis pas un cerveau mis en ligne, je ne suis pas, comme on veut le faire, je suis un être existant, librement, qui a le droit d'exister avec d'autres personnes et de ne pas être réduit simplement à un processus mécanique. Je ne suis pas simplement un ADN, je suis un être humain limité dans le temps, qui mourra, qui est né, qui est mort, et qui est né donc pas réductible à un objet mécanique, qui lui est toujours indéfini dans le temps.
Mais dans votre titre, donc, si je l'entends bien, l'existence au risque de l'innovation, il y a une menace.
Et il y a effectivement une menace, c'est celle dont je parlais au début, c'est-à-dire cette menace, c'est que l'innovation, remplaçant le champ du social et du politique, devienne, disons, le pouvoir, et un pouvoir s'exerçant sur nos existences, et les transformant radicalement. Je ne suis pas sûr que la population ait envie d'être soumise au développement des nanotechnologies. Peut-être du bien, peut-être du mal dans les nanotechnologies, mais les investissements financiers sont tels que de toute façon, on les aura et notre vie suivra. Ça, je ne suis pas d'accord. On doit discuter. C'est un principe de démocratie. Ce n'est pas un principe de précaution. C'est-à-dire, avant de faire des choix d'innovation, on peut peut-être discuter un peu avant de mettre des milliards pour faire des choses dont on ne fera que supporter les conséquences sans avoir pris de décision. Il faut discuter, c'est tout. Et c'est ça que j'appelle les choix sociaux par rapport aux choix innovants.
Très bien. Donc, il me semble qu'une des thèses de votre ouvrage, c'est que la fascination pour l'innovation et le progrès technologique nous a fait abandonner notre existence et que le mal n'en est pas récent. Il faut le faire remonter plus tôt dans l'histoire et c'est pour cela que vous entreprenez dans cet ouvrage une histoire de l'idée de nature en reprenant à Fernand Alain et à Simone Weil notamment de très belles formules dans lesquelles on comprend que l'exister cède la place au seul monde de la mesure et du mécanico-mathématique, si vous me passez cette expression. Vous opérez donc une histoire de de la nature et je serais très heureuse que vous en indiquiez les étapes à nos auditeurs en insistant peut-être aussi sur votre lecture assez originale de Copernic.
Oui, alors d'abord, le premier passage, le premier mot important, c'est idée de nature. Mm-hmm. Je ne pense pas et je ne crois pas, et de toute façon, c'est pas une idée très originale, c'est une idée ancienne mais qui a été un peu oubliée. Il n'y a pas une idée de nature en soi qui existe comme ça. L'idée de nature que l'on se fait, c'est une idée qu'on a construite au cours des millénaires dans l'Europe occidentale, mais d'autres idées de nature ont été construites. L'idée d'une nature au Japon, on a des expositions aujourd'hui sur le Japon, il suffit d'aller voir pour se dire...
Okusai, vous visez Okusai ?
Oui, qu'ils n'ont pas exactement la même idée de nature que nous. Donc, notre idée de nature, c'est une idée de nature.
Absolument.
Très, très efficace, ça c'est incontestable, très efficace, mais qui a eu pour but de transformer au XIXe siècle en particulier la nature en un entrepôt dans lequel on puisait indéfiniment et en même temps une poubelle puisqu'on rejette après. Donc je reviendrai sur cette question. Ben, on peut tout de suite dire deux mots. Il y a un petit exemple extrêmement simple qui montre, et je reviendrai à Copernic, je ne l'ai pas oublié, cet homme que j'adore. Donc je reviendrai sur Copernic. Mais un petit exemple très simple pour montrer que la conception de nature peut changer, de l'idée de nature peut changer très vite. Nous sommes au XVIIe, XVIIe siècle, donc il n'y a pas très longtemps. Nous avons un moulin à eau. Le moulin tourne, on met de la farine, on prépare du papier, on met du blé, on obtient de la farine, et puis, ou du papier, enfin c'est un moulin à eau tout à fait banal. C'est un objet technique. Cet objet technique fonctionne. Lorsqu'on a fini de récupérer la farine ou de récupérer le papier, on arrête le moulin, la nature est identique à elle-même, il ne s'est rien passé.
Identique.
L'eau continue à tourner, le moulin s'est un peu usé, mais c'est tout.
Peut-être que la rivière, c'est un moulin à vent, pas un moulin à eau.
Que ce soit un moulin à eau, il n'y a rien, rien n'est arrivé dans la rivière.
La rivière peut s'envaser.
Ah, donc dans ce cas-là, on peut retravailler la rivière, mais il n'y a pas de transformation radicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on va faire au XIXe siècle, c'est-à-dire l'objet technique ne fonctionne plus de cette manière, il fonctionne en ayant, comme le dit Coriolis et Helmholtz et ces gens-là, en ayant extirpé à la terre des réserves, c'est-à-dire du charbon, du pétrole, enfin peu importe, toutes ces choses-là, on les extirpe, ou même de l'hydroélectricité, on extirpe, on garde et on revend.
On conserve, oui.
Et on revend. C'est-à-dire, comme le dit fort justement Coriolis, et comme ça vous ferez du capital. C'est-à-dire que la transformation, c'est que c'est un bien commun. Le sous-sol de la Terre est un bien commun qui appartient à tous les hommes. Mmh. Il est accaparé par une minorité qui en fait du capital, en le revendant. Et en transformant la Terre, il suffit de se promener pour voir que la Terre, on lui a arraché ses ressources et on les a déposées ailleurs sous forme de dépôt. Et en même temps, on a fait de l'argent au passage entre les deux.
Alors, ce que vous êtes en
train
de dire...
C'est une naissance, disons, c'est la naissance objective du capitalisme. La naissance objective du capitalisme correspond à une transformation radicale de l'idée de nature. On lit mon livre et on voit exactement ce qui s'est passé dans la transformation des contenus scientifiques à cette époque. Je reviens à Copernic. Copernic, en général, on présente Copernic comme le premier scientifique moderne. Hein, en général, on a Copernic, puis après on a Galilée, puis après on a Newton, j'en saute quelques-uns, il y a Descartes, etc., que certains n'aiment pas beaucoup, mais qui est un point central, mais tous ces hommes arrivent. Mais le premier, c'est Copernic. Or, je ne pense pas du tout que Copernic soit le premier. C'est une lecture totalement erronée de Copernic. Ce qui ne veut pas dire que Copernic ne soit pas un très grand penseur. Mais Copernic pense autre chose que ce qu'on lui fait dire.
Alors, qu'est-ce qu'on lui fait dire et qu'est-ce que...
Ce que pense Copernic, c'est assez simple. Copernic, c'est un néoplatonicien. D'ailleurs, on le sait par les enseignements qu'il a reçus et la manière dont il aborde les questions. C'est-à-dire que pour lui, pour être très simple, on est toujours surpris du fait que ce type, tout d'un coup, prend la Terre, qui était au centre du monde, et l'envoie dans les cieux. Bizarre, ça, quand même, quelle idée, ce type, alors que c'est contraire à toute expérience sensible, d'avoir ce geste. C'est une sorte d'apax, comme ça, il fait ça. Mais pas du tout, il n'y a aucun mystère dans cette affaire. C'est que Copernic veut d'abord retrouver une perfection céleste, c'est-à-dire que le monde retrouve la circularité qui incarne la perfection divine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'interroge sur la terre. Et cela, en général, on ne le note pas. Or, dans son livre de 1543, il y a trois chapitres consacrés à cette question. Il nous montre, avec beaucoup d'ardeur et de vigueur, que la terre est parfaitement ronde. C'est un peu surprenant parce que personne ne s'en était aperçu. Elle est plus ou moins ronde, mais on voit qu'il y a des montagnes. Des... Non, elle est pour lui un objet parfaitement circulaire, parfaitement rond, parce que cet objet est un objet de nature, pour une part, céleste. Et à partir du moment où il considère la Terre comme parfaitement circulaire, c'est un objet céleste, donc un objet qui doit rejoindre le ciel et tourner, parce qu'il est sphérique, donc il tourne, c'est dans la nature de tout écran sphérique, il doit rejoindre le ciel, c'est-à-dire être un astre parmi les astres. Et le résultat de tout ça, c'est ce qu'il appelle le temple de Dieu. Le monde qu'il vient de créer, ça, ce sont ces termes eux-mêmes, le temple de Dieu. Alors, le temple de Dieu, c'est pas le monde de, c'est pas le monde de Galilée.
Parce que le monde. En même temps, dans le monde de Galilée, la Terre ne peut pas être elliptique comme chez Kepler, parce que, là encore, le modèle de la sphéricité est le modèle parfait.
Oui, mais la différence, parce que c'est là que tout se joue, c'est que j'ai dit que Copernic avait fait de la Terre un astre parmi les astres. Galilée prend sa lunette. Galilée est un mécanicien, c'est un ingénieur de la fin du XVIe siècle, un ingénieur italien comme beaucoup d'autres. Il pense le monde en mécanicien et il sait que le modèle, que ce que vient de faire Copernic, est susceptible d'être mécanisé, contrairement au monde aristotélicien d'avant. Il peut l'être. Or, qu'est-ce que le fait Galilée? Il dit non pas que la Terre est un astre, mais que les astres sont des terres. C'est-à-dire qu'il fait exactement l'inverse de ce que fait Copernic. Mais en faisant l'inverse de ce que fait Copernic, il transforme le temple de Dieu en une sorte de grande machine qui deviendra la mécanique du monde. Mais en faisant une grande machine comme cela, Dieu est évacué, évidemment. Ça devient un Dieu extérieur au monde. Et nous aussi, puisque nous ne sommes plus dans la maison de Dieu.
D'un même mouvement, vous dites ?
D'un même mouvement.
Galilée exclut les hommes et Dieu ?
Les hommes et Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais le Dieu de Galilée devient un Dieu extérieur qui sera le fameux Dieu des philosophes. Ce n'est plus un Dieu qui imprègne le monde comme il imprégnait nos vies du temps de Copernic. C'est un Dieu extérieur. Nous sommes aussi extérieurs à ce monde que nous regardons comme une mécanique. Et par là même, nous perdons notre responsabilité essentielle par rapport à ce monde. Donc ce que je pense, c'est non pas qu'il faut revenir à Copernic et au temple de Dieu, ça me semble, bon, certains peut-être...
Ce serait une drôle de façon de voir ça pour serait, l'Union Russienne.
Oui, ça serait, mais ça serait une façon très innovante. Très innovante.
Très
mais ce que je pense, moi, c'est qu'il faut reconstruire notre responsabilité.
Oui.
Parce qu'elle a été perdue à ce moment-là.
À ce moment-là, voilà, c'est-à-dire avec Galilée.
Avec Galilée. Elle est perdue, c'est-à-dire nous sommes, disons, à l'extérieur du monde. C'est-à-dire que nous regardons le monde comme une mécanique, et si c'est une mécanique, c'est un jeu de mécano. Les enfants sont à l'extérieur de leur mécano, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas responsables du jeu qu'ils font.
C'est à ce moment-là que l'idée de nature occidentale, si on peut le dire, devient mécanique et nombrée.
Ouais, devient, disons, voilà, parce que c'est la mesure qui devient la clé, c'est-à-dire que tout devient susceptible d'être mesuré. Or, tout n'est pas mesure. Là, on peut reprendre un contemporain de cette époque qui est Giordano Bruno et la question de l'infini. J'ai écrit sur l'infini. Pour Bruno, et c'est une autre manière de dire la même chose, pour Bruno, il y a deux infinis. Un infini en nombre et en grandeur, c'est l'infini de la physique mathématique, bon, pas de problème, on infinirait. Mais il y a un infini qui est un infini d'existence, un infini de Dieu. Chaque objet en lui-même est infini dans son être. C'est un deuxième infini. Et c'est ce que moi j'appelle, en éliminant Dieu,
l'infini de l'exister.
C'est un infini, je suis chaque... Moi-même, je suis absolument un être infini. Si je veux me décrire, je suis... Décrire-moi dans la totalité de mon existence, je suis fini dans la totalité du point de vue de mon existence, mais infini si on m'observe. C'est-à-dire qu'on dira ça, il y a ça, il y a ça, et c'est à l'infini. Je ne suis pas réductible à la grandeur et à la mesure, je suis en deçà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas la grandeur et la mesure. Il y a la grandeur et la mesure, mais la grandeur et la mesure n'est pas le tout du monde et des choses. Si on ne comprend pas ça, on tombe dans une espèce de théologie scientiste.
C'est très clair. Alors, à quelles conditions, Michel Blais, reprendre la main sur la mesure et le mesurer, et est-ce seulement possible ?
Ah ben, je pense que c'est possible parce que tout le monde n'est pas dedans. Il y a des tas de civilisations qui n'y sont pas, d'une part. D'autre part, moi, je dote beaucoup de textes poétiques, non pas parce que la poésie va changer le monde, je ne crois pas, mais simplement parce qu'on peut parler du monde autrement que par la grandeur et la mesure. Et ce que je pense qui est absolument essentiel dans cette affaire, c'est de reconstruire la responsabilité, mais la reconstruire en discutant, en parlant, en disant pourquoi nous voulons plutôt ça que ça. Innovation, on peut faire des innovations. On va prendre un exemple, disons, très, très, très simple. Les fameux perturbateurs endocriniens. Mmh. On parle toujours, hein, c'est pas moi qui les invente. Il y a des perturbateurs endocriniens et ça provoque des maladies, y compris des cancers. Bon, bien, alors on peut trouver de nouveaux médicaments pour les soigner. On peut aussi se poser la question de trouver un moyen qu'il n'y ait plus de perturbateurs endocriniens. C'est une autre manière de penser l'innovation que je crois beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus, disons, préférable pour l'avenir de l'humanité. Parce qu'elle est en jeu, l'avenir de l'humanité actuellement.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Michel Blais, je vous remercie.
Merci à vous aussi, et merci à l'Union rationaliste.
Je rappelle que le dernier congrès de l'Union rationaliste a précisément porté sur le progrès. Il sera prochainement publié dans Raison Présente, et j'en profite pour rappeler le numéro 189 de Raison Présente qui s'interrogeait déjà sur la question de savoir si le progrès est désirable, question en débat à l'intérieur de l'Union rationaliste. Je remercie Francis Pascal et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.